Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Bonjour Gérard Fitoussi. Alors.
Bonjour Charles Jousselin.
Alors nous sommes à Antalya en Turquie. Incroyable. À l'autre bout du monde. Enfin, c'est pas l'autre bout du monde, mais c'est au bord de la Méditerranée, quand même loin de la France. Et nous sommes là parce que c'est le congrès de l'European Society of Hypnosis et il y a une assemblée générale hier qui a fait en sorte que tu es devenu président de l'ESH pour 3 ans. Hein. Et tu connais bien parce que longtemps que tu es au bord de l'ESH. Bon, dis-nous déjà quelques mots tout simplement sur... voilà.
Bon, alors juste donc pour préciser... Donc en fait, c'est un concept qu'on connaît moins dans nos pays, mais l'élection a eu lieu il y a 3 ans. Donc en 2020, c'est là que l'élection pour la présidence de la Société européenne d'hypnose a été effectuée. Et donc lors de cette élection, lorsqu'on est élu, on devient ce que l'on appelle président élect. Et donc pendant 3 ans, j'ai été président élect, c'est-à-dire que je suis le prochain président de 2020 à 2023. Et ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, lors de la réunion du conseil de représentation, des représentants des différentes sociétés, c'est tout simplement le passage de l'ancien président qui terminait son mandat hier soir, et donc du nouveau président, mais qui a été élu il y a 3 ans, donc que je suis, et a été élu ce même jour, le prochain président. Donc je suis le président en titre maintenant, et il y a un nouveau président élect qui prendra ses fonctions en 2026.
Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, alors là, nous sommes à Antalya, il y a un congrès international. J'ai envie de te demander comment se passe ce congrès, voilà.
Alors, ce congrès de la Société européenne d'hypnose, il faut dire d'abord que c'est le premier qui se tient depuis 6 ans, puisque les congrès européens se tiennent tous les 3 ans. Donc, le précédent aurait dû se tenir en 2020. Et donc, en raison de la pandémie de Covid, le congrès qui devait avoir lieu à Bâle en 2020 a été annulé. C'est donc la première fois qu'on se retrouve tous ensemble, comme on dit, en présentiel. Et je dois dire que c'est quand même quelque chose de vraiment différent, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec eux, ce que ne permet pas vraiment le lien par écran interposé, qui est pour moi quelque chose de plus fonctionnel, où on peut effectivement faire quelque chose un bon travail, mais qui ne répond pas à l'aspect plus intime, plus personnel, plus interactif, plus intersubjectif, qui ne peut se faire, à mon avis, qu'en présentiel, et c'est ce qu'on fait. Alors, un des éléments personnels, plus personnels, c'est que, étant arrivé dans le bureau de l'ESH en 2017, en fait, je n'ai pas vraiment pu rencontrer toutes les personnalités qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, et donc c'est une vraie découverte de rencontrer certains, de pouvoir parler avec eux et ainsi de pouvoir avoir cet échange mutuel qui est si important.
Alors justement, c'est intéressant parce que moi, je suis au congrès avec toi, là, et on voit qu'il y a les participants et les intervenants viennent du monde entier. Alors, on voit de très différentes sortes d'hypnose et on est parfois un peu étonné.
Ouais. Alors effectivement, honnêtement, je n'avais pas vu à 100% le programme, mais par contre j'ai rencontré des personnalités venant du Mexique, alors c'est la société urbaine, mais des personnalités venant du Mexique, j'ai rencontré personnalités venant d'Iran, voilà, et tout à l'heure un collègue à nous venant du Japon qui va faire une présentation sur l'hypnose, enfin bon, et donc je pense que c'est vraiment ces congrès, alors que ce soit celui de la société européenne ou d'autres, c'est vraiment un moment très, très particulier où l'on peut rencontrer d'abord des personnalités venant de différentes cultures. Et je crois que ça nous permet de nous décentrer de ce que nous faisons d'habitude, qui est très bien, mais voilà, où on a l'impression qu'on est les seuls à faire à pratiquer de cette façon, et en venant, on aperçoit d'autres manières de pratiquer qui peuvent nous étonner, qui peuvent nous interroger en tout cas, et qui sont par contre très courants ailleurs, voilà. Donc c'est aussi le moment peut-être d'échanger avec ceux qui ne font pas tout à fait comme nous faisons, de discuter avec eux, et puis qu'ils voient notre pratique et qu'on voit leur pratique.
Oui, c'est très intéressant. Moi, je viens d'assister à un atelier là, tout à fait intéressant. J'ai retrouvé beaucoup de choses d'Erickson. Oh, mais j'étais un milieu. Maintenant, j'ai jamais pratiqué comme ça, mais c'était très étonnant. J'ai trouvé que c'était un peu directif, mais c'était. Mais enfin, c'était une façon de faire tout à fait étonnante, mexicaine d'ailleurs.
Voilà. Bon, il y a plusieurs. Moi, je vois, par exemple, que tu parles du Mexique. Par exemple, nos amis mexicains, j'avais parlé un peu avec Teresa Robles, pour ne pas la nommer, mais. Lorsqu'elle fait ses interventions, donc lorsqu'elle est au Mexique, elle peut utiliser des traits culturels de la société mexicaine que nous ne pourrions pas utiliser, nous, parce qu'elle est dans un autre environnement. Et c'est vraiment intéressant de savoir, de voir qu'il y a une autre façon de faire, utilisant d'autres éléments, d'autres références, notamment des références à la mythologie, à la religiosité, à la culture mexicaine, aux esprits qu'on utilisera beaucoup moins, par exemple, notamment en France.
Oui, très bien. Oui, non, c'est ça qui est très intéressant. Bon, mais alors, tu peux aussi un peu parler de toi. Alors, toi, est-ce que tu pratiques, ou tu pratiques encore, mais bon, différemment et moins, mais différemment. Doudou.
Oui, alors, bon, je reste... comme toi, moi j'ai beaucoup apprécié, tu avais dit que tu étais médecin généraliste avant tout, moi je reste médecin généraliste avant tout, et je crois que ça c'est vraiment pour moi très important, même si j'ai eu beaucoup de déceptions concernant cette pratique, mais pas du fait de la pratique, mais du contexte politique, administratif, dans lequel peu à peu cette pratique a été plus ou moins fermée. Mais alors donc voilà, donc j'ai ma pratique, bien que je sois à la retraite, d'une journée par semaine dans un centre de santé où je fais de la médecine générale. Une pratique privée d'hypnose, j'ai envie de dire du tout venant, anxiété, stress, anxiété, dépression, phobie, des choses comme ça. Et récemment, donc, j'ai intégré l'unité douleur de l'hôpital Henri Mondor, ne pas le nommer, et où là, je reçois des gens qui me sont adressés par l'unité du service, mais qui sont des douloureux chroniques, avec des douloureux très importants, plus que ceux que je recevais en pratique de ville, atteints de douleurs, soit d'algodystrophie, soit de neuropathie, soit de fibromyalgie, mais qui reviennent vraiment à ce que ça empiète totalement sur leur vie. Et vraiment, je trouve que... J'ai envie de dire, un peu égoïstement, c'est très intéressant, et de pouvoir éventuellement apporter les quelques... Et alors, une petite anecdote, le responsable qui m'a permis de venir, il dit, mais je ne sais pas ce que tu leur fais, ils ressortent tous avec la banane. Écoute, je ne sais pas. Il me dit, mais quand ils vont voir le psychiatre ou le psychologue, ils ne ressortent pas avec la banane. Mais quand ils ressortent, ils ressortent tous avec la banane.
C'est très intéressant, on ne va pas lui dire pour l'instant, mais il va peut-être falloir qu'il se forme.
Ouais, voilà. Et j'ai plusieurs anecdotes. Et comme tu le disais, j'en ai une dame qui a des douleurs. Et quand elle est venue, je lui ai dit, écoutez, on va revenir sur vos douleurs, il n'y a aucun problème, je voudrais que vous me parliez de vous. Et un petit peu, elle m'a parlé d'elle pendant trois quarts d'heure quasiment, et de sa vie, de ce qu'elle a fait, comment c'est arrivé, etc. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, j'aime bien comment vous faites. Parce que j'ai vu des psychologues et des psychiatres, ils sont donc quasiment dans les protocoles. Tu réponds à des questions, tu réponds à des... Elle me dit, j'aime bien comment vous faites. Et je dis, écoutez, moi, je ne fais rien de particulier. Et j'ai beaucoup apprécié. Je vais revenir. C'était notre premier entretien. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Donc, je suis assez content parce que, je ne vais pas dire en faisant rien, mais en étant là et en apportant ce que j'ai grâce à toi, Charles Jousselin.
Non, non. Bon,
parce que j'ai été formé au sein de la FIP il y a quelques années, mais puis avec toutes les autres formations, notamment les thérapies brèves, thérapies orientées solutions, puis toutes les autres, bah, j'ai l'impression vraiment de, là, modestement, voilà, pour quelques personnes, d'apporter quelque chose.
Ça sans doute leur apporter beaucoup. Bon, bon, très bien. Alors, autrement, toi, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, quand même. C'est que tu as écrit, quand même, un dictionnaire incroyable. Tu en parles un petit peu, parce que ce n'est pas venu comme ça. C'est qu'en fait, c'est toi qui m'avais dit que tu étais né... quand tu es né, tu avais un livre dans la main, je crois.
Pratiquement. Alors, en fait, dès que j'ai eu l'âge de... Oui, 10, 11 ans, même avant, mais 10, 11 ans, mais j'étais tout le temps avec un livre à la main. Je traversais la rue, ce qui faisait mes parents, mais ils étaient sans dessus-dessous, parce que je traversais la rue
en lisant.
Et ils étaient affolés. Bon, j'ai jamais eu de problème. Et donc, j'ai toujours eu... voilà. Alors que chez nous, on n'avait pas de livres dans ma maison. Il n'y avait pas de livres. Mais bon, j'ai toujours eu un livre à la main. Et je me souviens encore du chemin que je faisais entre le lycée, puisque j'allais au lycée Voltaire à Paris. Et le midi, je rentrais déjeuner chez ma grande tante et ma grande oncle. Et sur le chemin, il y avait un bouquiniste.
Formidable.
Un bouquiniste. Et voilà, je m'arrêtais régulièrement. J'achetais des livres. Je me souviens, à l'époque, c'était 1,20€ ou 1,50€ que je revendais à 0,30 centimes. Et je reconnais pas. Bon, bref. Donc, j'avais vraiment toujours plusieurs livres à la main. Et c'est vrai que pour moi, c'est une très grande richesse, quoi. Je crois que maintenant, c'est un grand bonheur que celui de...
Alors donc, t'as colligé les arts.
Alors, voilà, merci de me remettre sur le... Mais j'étais reparti, tu vois, quand j'avais 10-11 ans. Et donc, en fait, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la transmission. C'est la transmission et le fait que j'ai été surpris lorsque j'assistais à des cours ou à des séminaires ou à des formations, d'avoir soit des noms cités sans que je sache vraiment ce qu'il en était, soit des techniques utilisées sans citer.
The fact of ça, because...
Soit des techniques utilisées sans donner la référence, c'est-à-dire quel était l'auteur de cette métaphore, l'auteur de cette histoire, l'auteur de cette pratique. Et moi, ça me gênait toujours un peu parce qu'on avait l'impression que ça venait comme ça, de nulle part.
Ouais.
Et j'ai voulu rendre aussi hommage à ces gens qui nous ont précédés, qui ont fait un travail qui n'était pas simple, qui n'était pas facile, et qui ont permis de défricher le chemin de Nicolas, je dis bios pour simplifier, et de Nicolas, je pense que c'était à la fois pour moi de découvrir, je me souviens, une des premières formations qu'on avait fait avec toi, tu nous as parlé du pendule de Chevreul. De Chevreul. Bon, j'avoue que je savais le pendule, mais je ne savais pas qui était Chevreul. Donc grâce à ce dictionnaire, j'ai découvert qui était Chevreul et puis beaucoup d'autres personnes qui ont joué un rôle à un moment ou à un autre dans le domaine de l'hypnose. Et voilà, et ça m'a permis intéressant de les resituer. Et puis aussi après, de situer aussi le rôle de l'hypnose au niveau culturel. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, mais le rôle de l'hypnose dans la littérature, alors je dis encore une fois l'hypnose, mais c'est le magnétisme, c'est la transe, peu importe, quel que soit le nom, dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, alors à la fois dans les deux sens, c'est-à-dire une hypnose a servi de support et, et elle a servi aussi de sujet, quoi.
Oui.
Donc dans les deux sens. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant et... De faire profiter ceux qui pouvaient acquérir ce dictionnaire de ça. Et puis, par exemple, aussi, les relations de l'hypnose et des grandes traditions, notamment monothéistes, parce que, voilà, comment l'Église catholique, le monde de l'islam, le judaïsme a accepté, pas accepté l'hypnose, par exemple. Je trouvais que c'était intéressant, ce qui peut expliquer aussi soit les avancées dans certaines... des avancées qui sont relativement récentes dans d'autres, parce qu'il y a eu tous ces tabous, tous ces impératifs. Donc, trouvé que c'était intéressant. Et puis, aussi des références à des pays qu'on connaît un peu moins, l'hypnose en Espagne, en Italie, au Japon, en Chine. J'ai trouvé aussi que c'était intéressant de se décentrer. Parce que lorsque je lisais, j'ai lu pas mal d'histoires de l'hypnose, beaucoup ont été faites par des anglo-saxons. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Europe, on parle de l'Amérique. Et puis, voilà, ça s'arrête là, quoi, en gros. Et j'ai voulu aussi, à travers ce dictionnaire, parler de la Chine, du Japon, de l'Inde, et puis donner des pistes, puisque tout ce qui est dans le dictionnaire est référencé, ce qui permet à quelqu'un qui aimerait faire un peu de travail, aller plus loin, donc de décentrer un petit peu de notre vision européo-américaine que j'apprécie beaucoup et dont je suis très fier, mais je pense que c'est important aussi de citer les autres.
Alors en effet, ton ouvrage est extrêmement riche. Alors en t'écoutant, je me dis, mais alors, heureusement que tu es président de l'Européenne Société Hypnotiste, parce que c'est vraiment ta place et tu l'as travaillé depuis des années sans le savoir.
Voilà. Sans le savoir, effectivement, sans le savoir.
Là, on a été dérangé quelques instants, mais c'était amusant. C'était parce que les Turcs avaient fait une farandole, c'est ça ?
C'est ça.
Une farandole.
Très joyeuse.
Et voilà, ils sont partis. Quand ils ont vu leur président interviewé, ils vont peut-être revenir. Hein. Pardon.
Voilà, et je voudrais aussi dire qu'il y a aussi dans le dictionnaire, un élément important pour moi, c'est qu'il y a plus d'une 40 ou 50 pages, j'aurais pu en écrire plus, sur l'hypnose de spectacle.
Oui.
Et je sais que c'est un sujet controversé, l'hypnose de spectacle, mais j'ai voulu écrire là aussi en donnant des références sur le rôle qu'a joué l'hypnose de spectacle dans la diffusion de l'hypnose,
oui,
notamment au 19e siècle. Et surtout, par exemple, dans des pays comme l'Espagne, ce qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup de médecins espagnols ont appris et découvert grâce à l'hypnose de spectacle, et puis dans des pays comme l'Italie, etc. Et surtout que ces hypnotiseurs de spectacle étaient des vedettes énormes, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais qui jouaient devant le pape, devant le tsar, etc. Enfin, c'était vraiment des très très grandes vedettes, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir cette...
Bon, écoute, très bien. En tout cas, moi, je suis très content de t'avoir écouté, raconté tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on essaye peut-être de se refaire un entretien dans un an.
D'accord.
Hein, on peut essayer de refaire dans un an parce que, voir un peu. Parce que, je sais pas, quels sont tes projets en tant que président, mais il faut de toute façon, il faut déjà arriver. Voilà.
Oui, tu as tout à fait raison, même si ça fait 3 ans que je suis dans le board. Mais. Alors, c'est pour moi, si je prends une métaphore, si je prends une image, c'est comme quelqu'un qui est dans une voiture, dans le siège du passager.
Oui.
Et tu es dans le siège du passager et tu vas faire 10 000 fois le chemin entre chez toi et une certaine destination, toujours la même. Eh bien, quand c'est toi qui dois être le conducteur, eh bien, t'as beau avoir fait 1 000 fois le chemin, tu ne sais pas le chemin. Mais par contre, quand tu es le conducteur, eh bien là, tu fais attention. Alors que quand tu es le passager, tu regardes, tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Et c'est quand tu es vraiment derrière le volant que tu prends les choses en main. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord.
Ah bah, voilà une très bonne métaphore pour terminer cet entretien. Un grand merci, Gérard. Et puis, tu nous raconteras la place du conducteur.
Voilà.
Alors, très bientôt.
Merci, Charles.